Chapitre 3 du livre 3e. L'indulgence de la portioncule. Il importe de savoir tout d'abord que, antérieurement à l'institution de l'indulgence de la portioncule, l'Église n'avait connu qu'une seule indulgence plénière accordée à ceux qui prenaient la croix et allaient combattre pour la Terre Sainte. Tout homme qui faisait cela obtenait, sous la seule condition de se confesser de ses péchés, une remise complète non seulement de toutes les pénalités ecclésiastiques, mais encore de toutes les épreuves du purgatoire, de telle sorte que son âme pouvait apparaître devant Dieu immédiatement après sa mort. Cette indulgence de la croisade, Indulgentia de Terra Sancta, fut ensuite un peu étendue, de façon à valoir aussi pour ceux qui, empêchés par un motif grave de prendre eux-mêmes la croix, soutenaient la guerre sainte par des dons d'argent ou par des contributions de groupes troupes armées. Et ce furent précisément les franciscains, chose très importante à noter, qui reçurent du pape le privilège de distribuer cette indulgence de croisade ainsi étendue. Dans tous les autres cas où l'Église accordait une indulgence, et par exemple à l'occasion des consécrations d'Église, la chose se faisait sous une forme tout autre, beaucoup plus restreinte. Le Concile du Latran, en 1215, venait encore de rendre cette pratique plus exceptionnelle. L'indulgence accordée à l'occasion d'une consécration d'Église, d'après le dernier concile, ne pouvait consister qu'en une remise des peines ecclésiastiques pendant une année ou seulement pendant 40 jours quand l'indulgence était donnée à l'occasion des anniversaires d'une consécration. C'est d'une façon tout à fait extraordinaire que Grégoire IX, lors de la consécration de l'église Saint-François à Assise, a daigné consentir une indulgence de 3 ans pour ceux qui avaient traversé la mer afin de prendre part à la fête, et une indulgence de 2 ans pour ceux qui avaient traversé les Alpes, tandis que les pèlerins venus d'Italie avaient à se contenter de l'indulgence habituelle d'une seule année. Cela étant, en quoi consiste donc ce que François est allé demander au pape et ce que l'on affirme qu'il en a obtenu? Si nous devons nous en rapporter aux sources, dont nous examinerons la valeur ci-dessous, le saint s'est présenté un beau jour en compagnie du frère Masséo de Marignano devant Honorius III et a sollicité pour son église de la portioncule la même remise plénière qui était accordée aux croisés de Terre Sainte. « Je désirerais, aurait-il dit au pape, que tout homme qui entre dans cette église en se repentant de ses péchés et qui s'en est confessé et en a obtenu l'absolution, fût délié de toute faute et de tout châtiment depuis le jour de son baptême jusqu'au jour et à l'heure où il est entré dans la susdite église. » En vain le pape lui aurait rappelé que la curie romaine n'accordait à aucune église la faveur d'une telle indulgence, et en vain aurait-il offert à François l'une des indulgences accoutumées dont j'ai parlé tout à l'heure. Le saint se serait montré inébranlable et aurait déclaré que c'est Dieu lui-même qui l'avait envoyé pour réclamer cette indulgence, sur quoi Honorius tout à coup aurait cédé, comme sous une inspiration divine. Et ce seraient ensuite les cardinaux qui, en représentant à Honorius le dommage qu'une faveur aussi excessive risquait de causer à l'indulgence de Terre Sainte, auraient réussi à faire restreindre l'indulgence nouvelle de manière à ce que celle-ci ne fût point constante, mais ne pût être obtenue qu'un seul jour par an, depuis les vêpres de la veille jusqu'à l'aube du lendemain, c'est-à-dire pendant 36 heures. François donc s'en serait allé tout satisfait, et à la demande du pape, s'il ne désirait pas une confirmation écrite, il aurait répondu qu'une telle pièce était inutile, car Dieu saurait bien lui-même mettre en œuvre son œuvre en lumière. Autour de ce récit essentiel s'est formée toute une série de légendes, dont fait partie notamment cette légende des roses qu'Overbeck a représentée sur la façade de la chapelle de la Portioncule. Mais tous ces ornements du récit primitif n'apparaissent d'abord que dans des œuvres du siècle suivant, tandis que les faits que je viens de résumer plus haut nous sont présentés dans des sources beaucoup plus anciennes. J'ajouterai qu'au premier coup d'œil, ces faits ne laissent point de paraître assez vraisemblables, car tous les biographes nous apprennent l'amour passionné de François pour sa Portioncule, et nous savons aussi combien était grand le zèle du saint pour la conversion des pécheurs. Le fait est que, d'après Celano, il a eu un jour une vision où des hommes de toutes les races lui sont apparus affluents de près et de loin à la petite église de la Portioncule, et une vision pareille a été accordée à l'un de ses disciples. Le récit primitif contient en outre un détail très caractéristique du caractère de François, son refus d'une confirmation écrite. Le saint a toujours eu une méfiance et une antipathie marquée pour les documents écrits. En 1210, il s'est contenté volontiers de l'approbation verbale d'Innocent III, et c'est encore un appui tout moral qu'il a sollicité et obtenu du Concile de Latran. Lorsque Roland de Catanie lui a fait don de l'Alverne, la donation s'est produite sans aucune écriture, ainsi que nous le lisons expressément dans la lettre de donation officielle des jeunes comtes Catanie en 1274. Enfin, c'est de la manière la plus formelle que François, dans son testament, défend à ses frères de demander à la curie romaine des privilèges écrits, que ce soit pour une église ou pour tout autre endroit. Ainsi, une réponse comme celle de François aurait faite à Honorius, d'après le vieux récit, se trouve être absolument conforme à tout ce que nous savons de l'Esprit du Saint. Mais encore, s'agit-il de savoir s'il a fait vraiment cette réponse, ou, en d'autres termes, si une démarche comme celle que nous racontent les auteurs du récit a vraiment eu lieu. La première chose qu'il convient d'observer est que, parmi les sources authentiques et indubitables du XIIIe siècle, aucune ne contient un seul mot se rapportant à l'indulgence de la Portioncule. Thomas de Celano connaît les indulgences que Grégoire IX a concédées à la basilique d'Assise, mais ni lui, ni les trois compagnons, ni Julien de Spire, ni l'anonyme de Pérouse, ni Bonaventure ne paraissent avoir la moindre notion de l'existence d'une indulgence de la Portioncule. Et cependant, les auteurs du récit de cette indulgence nous affirment que depuis l'année 1216, tous les ans, à une date fixée par Honorius III, à savoir depuis la soirée du 1er août jusqu'à la nuit du 2, cette indulgence a été gagnée par de nombreux pèlerins, de telle sorte que l'on a considéré le singulier silence des biographes officiels comme une conséquence du manque de tout document écrit de la part du pape, ou bien encore comme un résultat de l'opposition d'Élie de Cortone et de son parti contre les hommes de la Portioncule, représentants de la tendance stricte dans l'ordre franciscain, ce qui impliquerait chez tous les biographes sudites le désir de servir la cause de cette opposition. Mais si cette dernière hypothèse était fondée, on devrait s'attendre d'autre part à trouver l'indulgence de la Portioncule mentionnée à une place d'honneur dans les légendes provenant du parti des rigoristes, dans les speculum perfectionnis, dans les actus beati Francisci et dans les fioretti. Or, là encore, c'est en vain qu'on chercherait une trace du récit en question. On ne trouverait une telle trace, une véritable attestation franciscaine de l'indulgence de la Portioncule, que si l'on tenait la légende italienne de Melchiori, voire l'introduction, pour une transcription fidèle et pure de toute interpolation de la légende primitive des trois compagnons. Car c'est là, et là seulement, que l'on rencontre le récit que j'ai cité, formant le chapitre XLIX de cette légende. Mais il n'y a pas, jusqu'à Sabatier lui-même, qui ose se fier entièrement à ce texte du XIVe siècle, encore que, pour son compte, il soit convaincu de l'authenticité de la fameuse indulgence. La tradition de cette indulgence repose indirectement, sinon en première ligne, sur le témoignage du frère Léon et des autres proches amis de saint François. Nous trouvons d'abord, parmi les sources qui la mentionnent, une attestation faite le 31 octobre 1277 devant de nombreux témoins avec la signature du notarius publicus d'Arezzo par deux franciscains, le père frère Benoît d'Arezzo, qui était autrefois avec saint François lorsque celui-ci vivait encore, et le frère Régnier d'Arezzo, qui déclare avoir été l'ami intime du frère Masséo de Marignano. Dans ce document, les deux frères affirment avoir entendu raconter par le frère Masséo, qui était la véracité même, comment François et lui sont allés ensemble à Pérouse et ont sollicité du pape Honorius l'indulgence sudite, bien que le pape leur eût dit que le siège apostolique n'avait point l'habitude d'accorder de telles faveurs. La relation des faits ici est très brève, et il faut reconnaître que le document porte une date certaine et présente tous les caractères de l'authenticité. Mais l'original de ce document a péri. Tout au plus pouvons-nous admettre avec Sabatier que l'une de ces copies qui se trouve à Assise remonte aux dernières années du XIIIe siècle. Une autre copie, considérablement abrégée dans un manuscrit de Voltaire, date incontestablement du siècle suivant. Diverses autres relations du même temps s'appuient également sur les témoignages du frère Masséo, toujours par l'intermédiaire de Benoît d'Arezzo. Sabatier les a reproduites dans son édition du livre de François Bartoli sur l'indulgence de la portioncule, écrit vers l'année 1335. Mais soit qu'elles aient pour auteur le frère Jean de Laverna ou le frère Othon Aquasparta, elles ne contiennent aucun détail nouveau. C'est toujours la même source, Masséo Benoît, qui reparaît devant nous. La seule addition, et d'ailleurs bien insignifiante, qui mérite d'être relevée, est l'affirmation qu'un vieillard, Pierre Zalfani, a assisté dans sa jeunesse à la consécration de l'église de la Portioncule et qu'il croit bien y avoir vu François debout avec un papier dans la main. Lequel papier, sans doute dans l'esprit du bon vieillard, aura été la bulle du pape, tandis que nous affirme d'autre part que François s'est obstinément refusé à en accepter une. Un autre groupe de témoignages à peu près du même temps ne s'appuie point sur le frère Masséo, mais sur le frère Léon, un noble de Pérouse, Jacques Coppoli, qui le 11 février 1276 a donné aux franciscains de sa patrie la montagne où s'élève leur ancien couvent de Monte Ripido, affirme à la même date et presque dans les mêmes termes que Benoît d'Arezzo, qu'il a entendu raconter l'histoire de l'indulgence de la Portioncule par le frère Léon. Dans le récit de Coppoli, le pape offre à François jusqu'à une indulgence de 7 années sans parvenir à le satisfaire. Enfin, il accorde l'indulgence de Terra Santa, mais les cardinaux le décident ensuite à la restreindre. Et après que François a raconté tout cela à Léon, il l'avertit de ne rien dire de cette indulgence aussi longtemps que lui-même, Léon, sera en vie. Car cette indulgence doit rester cachée quelque temps, mais bientôt le Seigneur la révélera au monde. Wadine établit d'une façon indubitable que ce témoignage date également de l'année 1277. Ainsi, nous voyons clairement que à cette date, c'est-à-dire deux générations après la date de l'indulgence présumée, l'ordre franciscain, ou plutôt les représentants de la tendance stricte dans cet ordre, auquel se rattachait Benoît d'Arezzo, ont tâché, d'une part, à affirmer de toute leur force la réalité de l'indulgence, et d'autre part, à trouver une explication vraisemblable du long mystère qui a régné sur elle. C'est pour cela que le frère Benoît d'Arezzo a fait attester devant notaire sa déclaration, et que Jacques Coppoli a fait la sienne en présence de nombreux témoins, devant le frère Ange, ministre provincial de Lombrie, à ce moment, 1274-1280. C'est pour cela que dans le récit de Coppoli, François donne au frère Léon l'étrange défense de ne rien révéler jusqu'à sa mort, qui a eu lieu en 1273. Et il faut noter que Léon désobéit à cette défense en faisant son récit et en renouvelant ce récit avec un grand empressement lorsque, peu de temps après, Coppoli, détail assez significatif, se sent pris de nouveaux doutes sur l'authenticité de l'histoire. Et c'est encore vers le même temps, ou à une date un peu antérieure, que le frère François de Fabriano affirme avoir reçu lui-même l'indulgence de la Portioncule et en avoir entendu l'histoire de la bouche du frère Léon. Mais ce François de Fabriano n'a écrit sa relation que dans les dernières années de sa vie, car il y cite un document qui ne saurait être antérieur à 1310. Né en 1251, ce frère François doit avoir près de 70 ans lorsqu'il rédige ses souvenirs, et la légende de l'indulgence de la Portioncule se trouve déjà à ce moment répandue dans toute l'Italie, avec une notoriété et une abondance de détails qu'elle était loin d'avoir dans la jeunesse du dit témoin. Comment ne pas supposer que le vieux frère, à son insu, a subi l'influence de l'opinion qui l'entourait? Lui aussi d'ailleurs, comme Coppoli, nous montre le frère Léon, bavardant à loisir sur le sujet, dont saint François lui a expressément défendu de parler. Que François de Fabriano soit allé à la Portioncule, dans l'année qu'il nous dit, nous n'avons pas de motif d'en douter. Mais que, dans son extrême vieillesse, il se soit figuré d'une façon tout arbitraire que l'objet de ce pèlerinage était l'acquisition de l'indulgence, c'est là une explication dont personne ne contestera la possibilité. Dès le début, d'innombrables franciscains sont venus en pèlerinage au tombeau de leur père spirituel et à la Portioncule. Et Kirch a remarqué à ce propos le fait très important que le pape Nicolas IV, lui-même un franciscain, dans un bref du 14 mai 1284, parle bien de la foule nombreuse des frères qui affluent à Assise, mais ne dit pas un seul mot de l'indulgence de la Portioncule qui aurait dû être le principal motif de leur venue. Ces pèlerins, d'après Nicolas IV, visitent l'église contenant le tombeau du saint et la chapelle de la Portioncule, mais cela pour honorer saint François et non pas pour se gagner une indulgence. La conclusion qui ressort de ce bref nous est encore confirmée par un autre fait. Angèle de Foligno, 1248-1309, peu de temps après son entrée dans le tiers ordre franciscain, a fait à Assise un pèlerinage qu'elle a raconté. Mais elle ne dit pas un mot de la Portioncule et rappelle seulement les deux visites qu'elle a faites à l'église du tombeau. Et cependant, cette bienheureuse appartenait très nettement à la catégorie des franciscains de la stricte observance. Le grand chef du parti de l'observance, Hubertin de Cassale, était venu la voir peu de temps avant sa mort et nous parle d'elle avec le plus grand respect dans le prologue de son Arbos Vitae. Après cela, il se peut naturellement que le voyage d'Angèle à Assise ait eu lieu à un moment de l'année différent de celui où tombait le jour de l'indulgence. Mais ce n'en est pas moins chose curieuse qu'elle n'ait pas une syllabe à dire sur la portioncule. Sans compter que si l'indulgence avait existé, alors tout porte à penser qu'Angèle aurait ordonné son pèlerinage de façon à pouvoir se l'acquérir, comme l'a fait notamment une amie de Marguerite de Cortone lorsque la tradition de l'indulgence a été en vogue. Ainsi, tous les faits connus tendent à indiquer que c'est seulement dans le dernier quart du XIIIe siècle, ou dans le dernier tiers, si l'on admet le témoignage de François de Fabriano, que l'indulgence de la portioncule a commencé à être connue. Et si l'on avait le droit d'appliquer nos conceptions modernes aux circonstances de ces temps d'autrefois, on serait tenté de placer l'origine de l'indulgence à la date du 50e anniversaire de l'acquisition de la portioncule, 1212-1262. En tout cas, il est certain que l'indulgence, dès qu'elle apparaît au jour, rencontre une vive opposition, comme suffit à le prouver l'attestation officielle devant notaire de Benoît d'Arezzo, de Régnier, de Coppoli et de Salfani. Il n'y a pas jusqu'au chef des franciscains stricts, Pierre-Jean Olivier, 1248-1298, qui ne soit contraint de s'occuper activement de la question de l'indulgence. Dans un petit pamphlet, malheureusement sans date, il s'efforce d'en établir l'authenticité en s'appuyant d'abord sur des arguments dogmatiques, puis sur des motifs historiques, et précisément le malheur veut que cette seconde partie, toute historique, du pamphlet soit aujourd'hui perdue. Le témoin principal de l'authenticité de l'indulgence est donc le frère Benoît d'Arezzo. C'est ce même frère Benoît à qui Thomas de Celano a dédié, après 1230, sa légende de saint François, écrite expressément à l'usage des couvents. Mais bien que Celano, dans ce petit livre, trouve assez de place pour nous parler des indulgences que Grégoire IX vient de concéder à la basilique d'Assise, il n'y fait pas la moindre allusion à l'indulgence de la portioncule, qui aurait dû cependant figurer dans une biographie de saint François, si sommaire qu'elle fût. De Benoît d'Arezzo, nous savons, par Salim Béné, qu'il a été envoyé par François en Orient comme chef de la mission orientale et que c'est lui qui, à Jérusalem, a admis dans l'ordre franciscain le roi Jean de Brienne. La seule biographie contemporaine que nous ayons de Benoît, écrite en 1302 par Jean d'Arezzo, le fait mourir en 1242. Mais d'autres documents prouvent qu'il vivait encore en 1268, et ce n'est qu'en 1277 qu'il aurait fourni l'attestation sudite de l'authenticité de la fameuse indulgence. La biographie de Jean d'Arezzo nous montre le frère Benoît comme un homme d'un naturel éminemment fantasque. Sa biographie est pleine d'aventures extraordinaires que nul autre que lui-même ne peut avoir racontées. Ainsi, pendant son séjour en Orient, un dragon à la gueule enflammée l'aurait emporté dans les airs jusqu'à Babylone pour y visiter le tombeau du prophète Daniel. Une autre fois, un nuage l'aurait transporté jusqu'au paradis où il se serait entretenu avec Enoch et Élie et aurait reçu leur bénédiction et échangé avec eux le baiser de paix. On ne saurait nier que ces récits sentent un peu l'Orient, où le frère Benoît a passé une grande partie de sa vie. Et si même on ne va point jusqu'à tenir avec Kirch toute l'attestation de 1277 pour un simple faux, du moins est-il clair que l'on n'a pas le droit de se fier beaucoup au témoignage d'un homme dont l'esprit était, pour ne pas dire plus, fortement enclin à l'exagération. Reste comme second témoin Beigné d'Arezzo. Celui-là est devenu franciscain vers 1258 et peut donc fort bien avoir connu le frère Masséo, qui n'est mort qu'aux environs de 1280. Mais est-ce que nous avons bien le droit de nous faire cette question? Est-ce que tout ce qu'a raconté le frère Masséo a toujours été infailliblement vrai? Certainement, avec les années et tout à fait d'une façon involontaire, bien des addictions fictives ont dû se mêler à ses souvenirs de son maître comme à ceux des autres franciscains des premières générations. Souvent, nous avons très vivement l'impression que les choses qu'il nous raconte sont fort étranges et difficiles à croire. Par exemple, quand nous lisons les anecdotes sur Saint François, rapportées par le frère Conrard de Fida, d'après les communications du frère Léon. Que si l'on veut comprendre bien ou juste la manière dont est née, vers la fin du XIIIe siècle, l'indulgence de la portioncule, une seule explication paraît possible. Le premier chapitre du livre de François Bartoli sur cette indulgence, écrit en 1335, contient le récit suivant trop peu remarqué jusqu'ici. Le frère Hugues de Castello a dit qu'il avait entendu raconter par le frère Jean Morico d'Assise qu'un paysan demeurait tout proche de Sainte-Marie de la Portioncule et que depuis longtemps, dans la nuit, il entendait des anges qui chantaient dans l'église. Il rapporta la chose au prêtre de l'église qui était de la famille des Mansacoli d'Assise et lui dit « Pourquoi ne vas-tu pas chercher François et l'amener ici ? Il est avec quelques-uns des frères à Rivotorto. » Sur quoi le prêtre allait chercher François, et celui-ci, pendant qu'il demeurait à la portioncule, eut une vision. La nuit, comme il dormait, il vit le Christ et Marie sa mère se tenir debout auprès de son lit. Et François leur dit « Qui êtes-vous ? » Et Jésus répondit « Je suis le Christ et c'est ma mère qui est avec moi. » François reprit « D'où venez-vous ? » « De la Terre Sainte. Et pourquoi êtes-vous venu ici ?» Et Jésus, « Je suis venu ici pour consacrer ce lieu à ma mère Marie. » Après quoi elle disparut. Mais François se leva et dit joyeusement, « Je ne veux plus m'en aller d'ici. Allez et amenez-moi mes frères. » Ce récit, que Bartoli n'a sûrement pas inventé, a pour nous un sens aussi clair que pas une autre des légendes symboliques du temps. Il signifie qu'à un moment où la Terre Sainte pouvait déjà être considérée comme perdue, la dernière citadelle des chrétiens, Saint-Jean d'Agde, devait tomber en 1291, c'est dans l'église de la Portioncule que s'est transportée cette indulgence de Terre Sainte dont la concession, ainsi qu'on l'a vu, avait été confiée par le pape aux franciscains. L'hypothèse peut paraître imprévue et hardie, mais en vérité, aucune autre explication n'est possible. Et Bartoli, en plaçant le récit que je viens de citer en tête de son livre sur l'indulgence, nous prouve bien encore indirectement que l'origine de cette indulgence a été vraiment une substitution de la portioncule à la Terre Sainte. Après que Nicolas IV, en 1289, a concédé une indulgence à l'Église nouvelle contenant le tombeau du Saint, ce qui impliquait forcément une certaine dépréciation de la portioncule au profit de cette Église, sans doute les franciscains stricts se seront crus obligés de tâcher à maintenir au premier rang, jusque dans le domaine des indulgences, l'ancienne Église que Saint François avait aimée, encore que Kirch me paraisse aller trop loin lorsqu'il voit dans cette opposition des zélateurs au privilège de la basilique nouvelle l'unique et entière origine de l'indulgence de la portioncule. En tout cas, cette indulgence était déjà universellement admise en 1295 où le général des franciscains, Raymond Goffredi, a publié une ordonnance réglant définitivement la manière dont devait avoir lieu les pèlerinages à la portioncule des frères qui désiraient se gagner l'indulgence. La date choisie dorénavant était le 2 août, probablement pour commémorer le jour où l'église avait été consacrée. Ce choix, au reste, était bien conforme à l'esprit franciscain. Le 2 août est en effet le jour où l'église célèbre la fête de Saint-Pierre et Lien, et l'on sait la vénération de François d'Assise pour l'apôtre Pierre. En outre, à la messe de ce jour, nous lisons dans la collecte « Ô Seigneur Dieu, toi qui as délivré Pierre de sa prison sans qu'il eût aucun mal, délivre-nous pareillement des chaînes de nos péchés. » Ainsi, ce fut désormais dans la petite chapelle de la Portioncule, cette nouvelle terra sancta, que les franciscains distribuèrent, en vertu de l'autorisation sudite, l'indulgence accordée jusqu'alors aux croisés, et délivrèrent de nombreux pèlerins pénitents des chaînes du péché et du châtiment pour les introduire dans la terre sacrée de l'innocence. Saint François d'Assise, livre 3, chapitre 4. Les chapitres de Pentecôte. La confrérie fondée par François avait été dès le début un ordre de pénitents, à la fois et d'apôtres. Et François lui-même avait toujours été le chef de cet ordre. C'est lui qui en avait écrit la règle et qui avait juré obéissance au pape au nom de tous les frères. C'est à lui qu'avait été donnée la permission de prêcher et le droit de transmettre à d'autres cette permission. Il est vrai que les 6 premiers frères partageaient avec François le privilège de pouvoir admettre de nouveaux membres dans l'ordre. Mais tous ces nouveaux admis étaient conduits à la Portioncule pour y recevoir des mains de François lui-même l'habit de pénitence. Cette admission parmi les frères équivalait à la conversio des moines des ordres anciens. Elle signifiait le renoncement au monde avec toutes ses œuvres, et en signe de ce renoncement, le nouveau frère distribuait tous ses biens aux pauvres. Dès le début, François aurait voulu, autant que possible, garder ses frères auprès de lui. Ainsi, tout de suite, dès qu'il avait envoyé des disciples en voyage de mission, il avait déterminé une date, statuto termino, un délai extrême, après lequel tous les missionnaires devaient se retrouver à la Portioncule. Plus tard, 2 de ces délais furent fixés, une fois pour toutes, à des moments de l'année où tous les frères étaient tenus de se réunir à la Portioncule, à savoir la fête de la Pentecôte et celle de Saint-Michel, le 29 septembre. De ces 2 réunions annuelles, où, comme on les appelait en empruntant l'expression à l'ancienne vie monastique, de ces 2 chapitres, l'assemblée de la Pentecôte était la plus importante. Ce jour-là, tous les frères se réunissaient et discutaient la manière dont il convenait d'appliquer et de suivre leurs règles. Ils mangeaient ensemble un frugal et joyeux repas, et puis François prêchait. C'est évidemment à l'occasion de ces chapitres annuels qu'il a dû prononcer les admonitions ou avertissements dont j'aurai bientôt à parler. D'ordinaire, ces discours développent un sermon sur la montagne ou bien des paroles évangéliques comme celle-ci. Celui qui veut conserver sa vie doit la perdre. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Celui qui ne veut pas renoncer à tout ne peut pas devenir mon disciple. Mais le sujet le plus fréquent et le mieux aimé dans ses prédications des chapitres était le thème favori de François, le respect dû au sacrement de l'autel et par suite la vénération due au prêtre. Parfois, il allait jusqu'à exiger que les frères baisassent les sabots du cheval sur lequel un prêtre était monté. Et il faut encore, mes enfants, que vous ayez toujours la paix dans vos cœurs, vous qui êtes venus pour apporter la paix aux autres. De telle sorte que lorsqu'un des disciples se sentait privé de la paix par des tentations, il allait trouver François au moment du chapitre et lui confiait toute son âme. Et aucun ne sortait de ces entretiens sans être pleinement consolé. C'est aussi durant ces chapitres que François choisissait les prédicateurs qu'il allait envoyer dans les diverses régions ou provinces, suivant l'expression adoptée ensuite. Dans ce choix, il ne tenait compte que des aptitudes de chacun à telle ou telle tâche. et il envoyait aussi volontiers des frères laïcs que des prêtres. Et enfin, de tout son cœur paternel débordant de tendresse, il les bénissait tous, et deux par deux, les frères s'en allaient joyeusement par le monde, en étrangers et en pèlerins, sans autre bagage que les livres dont ils avaient besoin pour réciter leurs offices. L'éloquence toujours très colorée et originale de saint François se changeait souvent dans ses réunions en une merveilleuse poésie. Ainsi, nous lisons dans l'une de ses admonitions, par allusion évidente à l'hymne liturgique du jeudi des rameaux, « Ubi caritas et amor, Deus ibi es ». Là où sont l'amour et la sagesse, il n'y a plus là ni crainte ni ignorance. Là où sont la patience et l'humilité, il n'y a plus ni inquiétude ni colère. Là où il y a la pauvreté et la joie, il n'y a plus ni désir ni souffrance. Là où il y a le repos et le recueillement, il n'y a plus ni souci ni agitation vaine. Là où la crainte de Dieu garde les portes, le méchant ennemi ne peut plus rentrer. Et là où il y a la compassion et la charité, il n'y a plus ni bien superflu, ni endurcissement du cœur. François aimait à proposer en modèle à tous les chrétiens la Sainte Vierge et Mère Marie. En vrai troubadour, il chantait l'une des plus belles laudes à la louange de toutes les vertus dont était ornée la Mère sans pareil et qui devait former l'ornement de toutes les âmes saintes. « Salut à toi, Dame Sagesse, disait-il. Le Seigneur te salue, ainsi que ta sœur, la sainte et pure simplicité. Sainte Dame Pauvreté, le Seigneur te salue, ainsi que ta sœur, la sainte humilité. Sainte Dame Charité, le Seigneur te salue, ainsi que ta sœur, la sainte obéissance. Et vous, toutes les très saintes vertus, le Seigneur vous salue et vous venez de lui. Sainte Sagesse, tu fais honte à Satan et à toutes ses ruses. Sainte, pure simplicité, tu fais honte à toute l'intelligence de ce monde et à la malice de la chair. Sainte Pauvreté, tu anéantis tous les désirs, toutes les passions, tous les soucis terrestres. Sainte Humilité, tu fais honte à tout orgueil et à tous les hommes mondains et à tout ce qui est du monde. Saint Amour, tu détruis toutes les tentations du diable et celles de la chair, et toutes les craintes de la chair. Sainte Obéissance, tu détruis toutes les volontés de la chair et toutes celles du corps, et tu retiens le corps dans l'obéissance de l'esprit, de façon que l'homme puisse servir tous les hommes sur la terre, et non pas seulement les hommes, mais aussi toutes les bêtes, à la fois les sauvages et les apprivoisés. Après cet éloge de toutes les vertus qui fait songer aussi irrésistiblement à la manière dont Giotto a célébré la sainte obéissance, la sainte chasteté et la sainte pauvreté dans les fresques qu'il a peintes au-dessus du tombeau de François d'Assise, le poète s'élance jusqu'au trône de la plus pure des vierges. Salut à toi, sainte femme, très sainte reine Marie, mère de Dieu, toi qui es vierge éternellement. Le Père t'a choisi du ciel et t'a sanctifié de son Saint-Fils bien-aimé et du Saint-Esprit consolateur. Et c'est en toi qu'a été et qu'est toujours toute la plénitude de toute grâce et de tout bien. Salut à toi, forteresse royale de Dieu. Salut à toi, temple d'alliance de Dieu. Salut à toi, demeure et vêtement de Dieu. Salut à toi, servante et mère de Dieu, et salut à vous toutes saintes vertus que la grâce et le Saint-Esprit font fleurir dans le cœur du fidèle et qui transforment en bons serviteurs de Dieu ceux qui auparavant étaient incroyants. C'est sans doute à la suite d'un tel chant de louange à Marie, considéré comme l'idéal chrétien, que saint François se sera écrié « Nous, les frères mineurs, que sommes-nous d'autres que les chanteurs et les jongleurs de Dieu qui devront remuer les cœurs des hommes et les soulever jusqu'à l'allégresse spirituelle. Transporter les âmes au ciel par le chant et les images, s'en aller de porte en porte en chantant combien c'était chose belle et joyeuse de servir le Seigneur. C'est ce que François lui-même avait essayé à Assise, et c'est également la tâche poétique qu'il a transmise à ses frères. « Ne sais-tu pas, mon cher frère, disait le frère Égide, que la sainte pénitence, la sainte humilité, et le saint amour, et la sainte piété, et la sainte joie, rendent l'âme parfaitement bonne et heureuse ?» Nombreux étaient au temps de François d'Assise ceux qui ignoraient cela, et voilà pourquoi les jongleurs de Dieu, Joculatores Dei, se sont répandus par le monde pour chanter ces vérités et les faire pénétrer jusqu'au fond des cœurs. Dès le début aussi, les réunions des chapitres avaient pour objet l'édification réciproque des frères. L'ordre ne possédait en fait aucune organisation régulière, et du reste, qu'aurait-il eu à organiser? Ils n'emportent ni sac ni poche avec eux sur la route, ni pain ni argent dans leur ceinture, ni chaussures à leurs pieds. Ils n'ont ni couvent, ni église, ni moisson, ni vigne, ni troupeau, ni maison, ni aucun bien quelconque, ni un seul objet où reposer leur tête. Ils ne revêtent ni fourrure, ni toile, mais s'habillent seulement de sarraux de laine avec des capuchons et ne connaissent ni manteau, ni collet, ni aucun autre vêtement. Que si quelqu'un les invite à un repas, ils mangent et boivent ce qui leur est offert. Leur donne-t-on quelque chose par compassion? Ils s'interdisent de rien garder pour le jour suivant. Et ce n'est pas seulement par leurs paroles, mais bien par la perfection de leur conduite et la sainteté de leur vie qu'ils entraînent nombre de gens de toutes conditions à dédaigner le monde, à abandonner maison et patrie et les plus grands biens pour revêtir l'habit des frères mineurs qui ne consiste qu'en un simple sarrau et une corde autour des reins. Pour des hommes qui vivaient ainsi, point n'était besoin de beaucoup de lois ni de règlements. Les alouettes ont-elles besoin d'autre chose que d'une gorgée d'eau à la source et de la nourriture qu'elles recueillent dans les champs pour pouvoir de nouveau s'élancer dans les airs et chanter si joyeusement les louanges de Dieu que tous les hommes sont contraints de s'interrompre de leur tâche et de lever leurs yeux? Aussi le frère François aimait-il par-dessus tous les oiseaux. Celui qui est communément appelé l'alouette à capuchon, et disait-il de lui, notre sœur l'alouette a un capuchon comme nous, et c'est un oiseau bien humble, car toujours elle va sur le rebord du chemin pour y trouver un grain de blé. Ses plumes ont la même couleur que la terre, et nous sont un modèle pour nous apprendre que nous ne devons point porter de beaux habits délicats et bariolés, mais des habits simples et pauvres. Et quand elle s'envole dans les airs, notre sœur l'alouette, elle loue Dieu d'une façon délicieuse, comme doivent le faire les bons frères de l'ordre. Malheureusement, cette heureuse et libre vie d'alouette ne pouvait pas durer indéfiniment. Sans cesse, un plus grand nombre de nouveaux venus se joignaient aux frères. Et non seulement il arrivait des jeunes gens, mais aussi des femmes mariées ou non, et aussi des hommes mariés. Les jeunes filles, elles, étaient toujours faciles à caser. On les engageait à entrer dans un couvent, où l'un des frères prenait sur soi de les visiter de temps à autre et de devenir leur directeur. Mais voici qu'arrivaient de vieux hommes mariés qui disaient « Nous avons des femmes dont nous ne pouvons pas nous séparer. Enseignez-nous comment nous devons vivre. » Et de cela aussi il fallait s'occuper. À cela aussi il fallait répondre « Et comment le faire ?» Ainsi, le mouvement que François avait créé était véritablement sur le point de le déborder. Il n'aimait pas beaucoup en particulier que ses frères se chargeassent de visiter et d'assister des nonnes. « Je crains bien, aurait-il dit, que le diable nous envoie maintenant des sœurs au lieu des femmes à qui nous avons renoncé pour l'amour de Dieu. » Souvent, comme par exemple à Canara, il devait lui-même retenir et modérer le zèle de ses auditeurs, qui tous voulaient le suivre, hommes et femmes, mariés et célibataires, toute la population de la ville. « Ne voitez point trop, » implorait le pauvre François. « Prenez un peu de patience. Je vais réfléchir à ce que je pourrais vous conseiller pour votre bien. » Grandes étaient les difficultés que provoquaient chaque jour les progrès du mouvement. Certes, d'une part, François pouvait se réjouir de sa riche moisson, mais d'autre part, les greniers lui manquaient pour y recueillir cette moisson. Ses filets, comme ceux des apôtres, étaient prêts de se rompre sous l'excessive abondance de sa pêche. La règle qu'il avait écrite naguère, en paroles simples et peu nombreuses, avait de quoi suffire pour des évangélistes et des jongleurs errants, mais ne convenait point pour des nonnes et moins encore pour des hommes mariés. Et François consentait bien volontiers à conduire une troupe d'alouettes, d'autant que les oiseaux sauvages toujours étaient les plus empressés à lui obéir. Mais voici que maintenant s'offraient à lui des hommes occupant des situations considérables, des gens mariés, des jeunes filles. Comment pourrait-il, lui, simplexe et idiota, le simple et l'imbécile, fournir une règle de vie, un système de loi à ces oiseaux apprivoisés d'une espèce qu'il n'avait point prévue? Involontairement, François cherchait autour de lui une main amie qui lui vint en aide. Et cette main était plus proche de lui qu'il ne le pensait. C'était une main blanche, délicate et élégante, mais avec cela très robuste, sous l'anneau violet dont elle était ornée. La main du ministre et conseiller d'Innocent III, le cardinal Ugolin, évêque d'Ostie et de Velletri.